Bon, ben, moi je vais commencer par vous proposer un petit jeu, un petit exercice, sous la forme de deux questions. Et ces questions, je ne vais pas vous demander d'y répondre, mais juste de vous mettre en situation, de vous imprégner de ces deux questions. Alors la première, c'est, première question que je vous pose, fait-on les choses volontairement ou involontairement? Voilà, donc pensez un petit peu à ça. Est-ce qu'on fait les choses volontairement ou involontairement? Et maintenant, je vais poser une autre question qui peut s'adresser à chacun d'entre vous. Et par exemple, je m'adresse à Jeanne et je te demande, Jeanne, est-ce que tu es venue à cette présentation de livre de philo volontairement ou involontairement?
Que je réponde.
Non, mais que tu penses à ça.
Sous la contrainte.
Bonne remarque, on pourra reprendre ça. Alors, voilà deux manières en fait d'exprimer un petit peu une interrogation sur le même sujet, ce qui est volontaire, ce qui est involontaire. La première qui semble plus formelle, hein, fait-on les choses volontairement ou involontairement, ça pourrait être peut-être un sujet du bac. Et la deuxième, bah, est-ce que tu es venu à cette séance de présentation de livres de philo volontairement, qui est du ressort de ce qu'on va appeler le langage ordinaire. Et le sujet principal en fait qui va nous occuper, c'est ce qu'on appelle la philosophie justement du langage ordinaire. Donc, à travers cet exposé, mon but est double en fait, c'est à la fois d'essayer de faire comprendre, alors dans la mesure où moi ce que j'ai compris, ce qu'est la philosophie du langage ordinaire, et puis de savoir quelques mots sur cet auteur, Stanley Cavell, donc qui a écrit Dire et vouloir dire. Traduction, le titre original est Must we mean what we say? Alors, je vais commencer par dire quelques mots sur Stanley Cavell. Il est mort récemment, c'était au mois de juin 2018. Donc, on en a un petit peu parlé. Il y a eu des chemins de la philosophie par Adèle Van Rett qui ont été consacrés. Il y a quatre émissions qui ont été consacrées à Stanley Cavell. CAVE2L. Alors, il est originaire d'une famille juive de Géorgie, et son père est arrivé aux États-Unis en 1905 aussi, exactement la même date. Et il faisait partie de cette vague d'immigration des Juifs d'Europe centrale et de l'Est qui échappaient au pogrom. Alors, il avait une mère qui était une pianiste émérite. Et il a commencé par des études de musique. Il aurait pu faire carrière dans la musique s'il n'avait pas fait dans la philosophie. Il a reçu un diplôme de Bachelor of Arts in Music à Berkeley. Et ensuite, il a quand même été admis à la Juilliard School, donc ce qui est assez prestigieux. Et il a renoncé à un moment donné à ses études de musique pour commencer un cycle de philosophie à l'université. Il y a eu une rencontre très importante dans sa vie d'étudiant, c'est celle de Austin, qu'il a eue comme professeur. Alors, lorsqu'il était étudiant à Harvard, Austin, en fait, il est connu surtout en France pour la notion d'énoncé performatif, c'est-à-dire, par exemple, quand le Voilà, quand dire c'est faire, voilà, son ouvrage s'appelle comme ça. Par exemple, quand le maire déclare à deux prétendants de se marier, il dit « Je vous déclare mari et femme », en même temps qu'il le dit, en même temps ça se réalise. Donc c'est ce qu'on appelle l'énoncé performatif. Et en fait, Austin, il a fait bien d'autres choses que ce concept d'énoncé performatif, c'était lui-même aussi un philosophe classé dans la philosophie du langage ordinaire. Et Cavell raconte en fait que c'était une rencontre forte et que là, il a découvert en fait tout un horizon nouveau de la philosophie qui l'a fortement intéressé. Alors ensuite, Cavell, il a fait une carrière universitaire, principalement à Harvard. Donc parmi ses influences, il y a Austin, il y a Wittgenstein, et puis aussi Emerson, Ralph Waldo Emerson. Et il a été influencé et il a écrit sur ces trois philosophes. Alors, c'est quelques thèmes d'études. Donc, la philosophie du langage ordinaire, c'est ce qu'on va développer. Le perfectionnisme, donc ça, c'est dans le monde éthique et moral. Mais c'est une bonne introduction à ce qu'est l'ordinaire. Dans une conception classique de la morale et de l'éthique, on considère en fait que la morale, elle entre en jeu principalement ou quasi uniquement lorsqu'on est face à une décision grave. Donc c'est là où c'est une décision morale. Et on a l'impression qu'entre deux décisions, en fait, ça concerne plus la vie entre deux décisions graves, en fait, ne concerne plus la philosophie, ou la morale ou l'éthique. Donc ça, dans la conception classique. Dans ce qu'on appelle le perfectionnisme, au contraire, c'est un souci de chaque instant, donc complètement intégré dans la vie courante de l'individu. Alors c'est une tradition qui est assez ancienne dans la philosophie. On peut citer, en remontant dans le temps, on peut citer Nietzsche, quand il reprend Pindare, ou pour dire « deviens ce que tu es ». On peut citer Montaigne, quand il dit « il faut vivre à propos ». Et on peut citer aussi la philosophie antique, telle que Foucault nous l'a fait redécouvrir avec le souci de soi, ou Pierre Hadot avec les exercices spirituels. Donc c'est un de ses thèmes d'écriture, le perfectionnisme. Autre thème important, c'est le scepticisme. Alors le scepticisme aussi, ça a une tradition philosophique. Alors il en évoque plusieurs manifestations. Alors, notamment par rapport à la connaissance, hein, le sceptique pur et dur de la philosophie, c'est quelqu'un qui dit que la vérité n'est jamais accessible, quoi. On n'est jamais sûr, en gros, on n'est jamais sûr de rien. Alors, pour lui, pour Cavell, en fait, il reconnaît une partie du scepticisme, du fondement du scepticisme sur la connaissance. Mais il s'intéresse plus, lui, à un autre aspect qu'il appelle la reconnaissance. Et dans le livre dont je vous ai parlé, je vais vous parler, il y a notamment un chapitre qui s'appelle « Connaître et accepter, knowing and acknowledging », et où il montre en fait que il faut reconnaître justement que il y a plein de choses qui nous échappent, et notamment par rapport à notre relation à autrui, et que si on pour lui, le contraire de la reconnaissance, c'est la négation, c'est la destruction. Si je ne reconnais pas le monde, je le détruis. Peut-être que je ne le connais pas, ou je le connais de manière très imparfaite, et notamment la pensée des personnes qui m'entourent, mais je dois reconnaître en fait leur existence, plus que connaître. Alors, autre sujet aussi qui est plus original dans la philosophie, c'est le cinéma. Pour lui, le cinéma, c'est pas uniquement trouver quelques matières à réflexion philosophique, hein. Il n'est pas le seul philosophe contemporain à parler du cinéma, mais peut-être que plus souvent, chez les philosophes contemporains, on va trouver une illustration, par exemple, par le cinéma. Alors que pour lui, c'est vraiment le cinéma, c'est vraiment une manière de penser, c'est vraiment une manière philosophique de penser. Et c'est un moyen d'expression de la philosophie important, notamment dans le cadre de la philosophie américaine. Alors, il a écrit, par exemple, sur les comédies de remariage. Une comédie de remariage, c'est une comédie où au début il y a un couple et puis ils se séparent et à la fin ils se retrouvent. Alors il en cite un que je n'ai pas encore visionné, donc je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est, en anglais ça s'appelle Philadelphia Story, en français ça s'appelle Indiscrétion. C'est un film de George Cukor avec Cary Grant et Katharine Hepburn. Et c'est la comédie du remariage par excellence. Alors pour lui, c'est le à travers ces comédies de remariage, ben il travaille sur la possibilité de reprise de sa vie. Donc peut-être ça va vous faire penser à un autre livre, celui de François Julien, La Seconde Vie, et d'une qui reprenait aussi un concept de Kierkegaard qui s'appelle. Notamment un ouvrage de Kierkegaard s'appelle La Reprise. Alors, son œuvre, ben, il a écrit une quinzaine de livres, il a écrit des articles. Sur Internet, vous retrouvez quelques émissions de France Culture, alors notamment, ben, principalement à l'occasion de sa mort. Il y a quelques interviews en anglais. Alors, il a un accent qui est très compréhensible. Quand il parle anglais, il n'y a pas de problème de compréhension de l'accent. Et puis, il y a pas mal d'articles aussi qui ont été écrits sur lui. Alors, j'en viens plus particulièrement au livre, donc « Dire et vouloir dire »,« Must we mean what we say ». Alors, c'est en anglais, ça s'appelle « A book of essays ». C'est un ensemble, en fait, de plusieurs parties qui sont relativement indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de lire du début jusqu'à la fin de manière chronologique. Il est paru en 1969, c'est son premier livre, et il a fallu attendre 2009 pour avoir une traduction en français, alors qu'il est quand même considéré comme un des, enfin dans le monde anglo-saxon, comme un des philosophes majeurs. Et donc la traductrice est Sandra Laugier, qui est, si vous...
qui s'occupe du Caire.
Oui, oui, oui. Et si vous trouvez des émissions sur Cavell, à la radio notamment, c'est souvent Sandra Laugier qui est invitée. Alors, philosophie du langage ordinaire. Tout d'abord, ben, le langage ordinaire, qu'est-ce que c'est ? Alors, faut pas trop se prendre la tête avec ça. C'est-à-dire, faut pas chercher une définition très stricte de se dire... Mais quand est-ce que l'ordinaire et le langage ordinaire finit et quand est-ce que le langage ordinaire non ordinaire commence, hein. Simplement, l'ordinaire et le langage ordinaire, c'est celui qu'on utilise dans toutes les situations courantes de la vie. Hein. Lorsqu'on se rencontre, lorsqu'on fait... Voilà, quand on est... qu'on parle de choses et d'autres avec les gens. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des discussions futiles et insignifiantes. Dans le langage ordinaire, ça peut être des relations amoureuses ou amicales. Bon, pour donner des exemples de ce qui n'est pas le langage ordinaire, alors, Cavell lui-même, il dit le langage ordinaire, c'est des contextes qui sont non techniques, non philosophiques et non politiques. Voilà, donc on élimine les discours techniques, philosophiques et politiques, et en gros, tout le reste, c'est du langage ordinaire. Alors, faut pas penser que parce que on a affaire à un philosophe du langage ordinaire, que son livre va être facile à lire. C'est un livre qui est, j'ai trouvé, extrêmement difficile à lire. D'abord parce que c'est une manière de faire de la philosophie dont on n'est pas... qui n'est pas habituel pour nous, et c'est très, très profond, donc c'est de la vraie philosophie, donc c'est pas facile à lire. Voilà, alors, reprenons les questions que je vous avais posées au début. Et on peut les résumer en disant, voilà, on va s'attacher à la question suivante. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'une action est volontaire ou involontaire? Voilà, qu'est-ce que je dis quand je dis qu'une action est volontaire ou involontaire? Alors en fait, au début, je l'ai formulé de deux manières. La première manière, je l'ai formulé selon la philosophie classique, hein, fait-on une action volontaire ou involontairement, et à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que vous vous êtes dit, ah oui, la volonté, c'est quoi la volonté, le libre arbitre, tout ça. Voilà, donc on fait appel à des concepts, à l'abstraction. C'est la manière d'aborder de la philosophie classique. Deuxième manière, on pourrait aborder ça de manière psychologique. Au sens large, hein, psychanalytique, sociologique, en me disant, je fais quelque chose de volontairement ou involontairement, ça dépend de plein de choses qui sont passées dans ma vie, du contexte, de mon état d'âme, de mon intériorité. Voilà. Et à ce moment-là, il y a une infinité de cas envisagés, qui sont tous, spécifiques. Et la troisième manière de traiter ce problème-là, c'est celui de la philosophie du langage ordinaire. Et quand j'ai demandé à Jeanne, est-ce que tu es venue à cette présentation de philosophie volontairement, Pierre, tu as réagi en disant est-ce que tu as été contrainte? Et en fait.
C'est faux.
Mais en fait, voilà, le philosophe de la langue, du langage ordinaire, il se dit, mais quand est-ce qu'on se pose cette question-là, en fait, dans quel moment dans le langage ordinaire? Et il prend l'exemple d'un cadeau. Il dit, si je dis, est-ce que telle personne a fait ce cadeau volontairement? Normalement, c'est une question qu'on ne pose pas pour un cadeau. Et si on la pose, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre, comme la contrainte. Est-ce que si je pose la question à Jeanne sur savoir si elle est venue ici de manière volontaire, ben, derrière, on entend, il veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre, que ce n'est pas normal, en fait, qu'elle est venue ici, quoi. Et si je pose une question sur un cadeau, est-ce qu'un cadeau a été fait volontairement? Ben, on se dit, ben, pourquoi il pose cette question? Peut-être parce que le cadeau, il avait l'habitude de donner 10 euros à Noël, et puis là, tout d'un coup, il donne 1 000 euros.
Il y a un truc.
Il y a un truc, il lui offre du chocolat alors qu'elle a des crises de foie. Voilà. Donc, le philosophe du langage ordinaire, eh ben, il voit en fait que les situations dans lesquelles où on pose cette question, c'est les situations qui sont dans un contexte particulier qui est inhabituel. Donc, ça dire que on peut dire que la question du volontaire et de l'involontaire ne se pose, n'a un sens dans le langage ordinaire que lorsque l'acte s'effectue dans un contexte particulier et inhabituel. Voilà. Donc, c'est ça, c'est l'enseignement que le philosophe du langage ordinaire va pouvoir ressortir sur cette interrogation. Donc ça ne va pas être quelque chose de conceptuel. Et par rapport au titre du livre, Dire et vouloir dire, bien, Cavell va dire, voilà, si je croise quelqu'un et qui me dit, par exemple, est-ce que c'est volontaire la manière dont tu t'es habillé aujourd'hui, il doit vouloir dire, il ne peut vouloir dire que ta manière de t'habiller aujourd'hui me semble pour le moins inhabituelle. Ouais. Voilà. Et d'où cette interrogation, en fait, de fond qui, a priori, existe dans toute la pensée de Cavell, de dire, en fait, ce qu'on veut dire, de l'adéquation, en fait, entre ce que l'on dit et ce qu'on veut dire. D'où le titre en anglais, qui est très difficile à traduire. Alors Sandra Logier dit qu'en fait, elle l'a traduit par dire et vouloir dire, mais c'est en anglais, c'est Must we mean what we say? Et mean, en fait, ça a deux significations. Quand on dit, ça peut vous,
Comprendre.
voilà, ça peut vouloir dire, alors à la fois, c'est bien ce que je veux dire. Quand on dit I mean it, ça veut dire bah, c'est bien ça que je veux dire. Et en même temps, quand on dit par exemple What does that mean? On s'interroge sur la signification de ce qui est dit. Donc il y a ces deux choses qui sont. Voilà, alors on voit en fait que cet enseignement qu'on sort du langage ordinaire, c'est pas une. C'est ben, volontaire, involontaire, enfin, la question est posée que dans les situations inhabituelles. Et qu'on dit ça que dans les situations habituelles, c'est une connaissance. Pour Cavell, c'est une vraie connaissance, mais qui n'est pas une norme qui vient du concept, du discursif. C'est pas non plus une norme, une connaissance qui vient de la spécificité intérieure du philosophe, mais c'est une connaissance qui est à l'intérieur du langage ordinaire. Et c'est le philosophe du langage ordinaire, en fait, qui va extraire ses connaissances du langage ordinaire. Donc c'est bien un type de connaissance, en fait, assez singulier. Voilà, alors pour conclure, en fait, ben on peut dire que l'intérêt de lire Cavell, en fait, il est multiple. D'abord, on apprend des choses sur le langage, en fait, sur la profondeur du langage. Alors, personnellement, moi, j'ai trouvé une résonance très intéressante par rapport à l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Et dans l'intelligence artificielle, en fait, il y a plusieurs domaines, et il y en a un notamment, c'est ce qu'on appelle le traitement du langage naturel. Et alors, je ne sais pas si vous avez des iPhones, vous devez avoir Siri, et je ne sais pas si vous avez déjà parlé à Siri. Maintenant, il y a le petit boîtier Alexa d'Amazon que vous pouvez acheter, par exemple, chez Monoprix, et vous pouvez lui parler. Et là, tel que c'est présenté, on nous dit qu'on peut lui parler en langage ordinaire. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que ce qu'on fait, c'est uniquement récupérer des mots, quoi. Et voilà. Donc c'est intéressant, c'est une réflexion sur le langage qui est très intéressante. C'est une manière de philosopher aussi qui est intéressante, cet ancrage, en fait, dans l'ordinaire. Alors ça veut pas dire qu'il néglige ou il invalide la philosophie classique, mais c'est une autre manière de parler et de penser. Et puis, en fait, dernier intérêt aussi, c'est que bah, il s'intéresse à des domaines comme le cinéma. Il prend le cinéma au sérieux comme pensée. Sur la musique aussi, il fait pas mal de choses parce qu'il est lui-même est musicien. Donc voilà, en fait, c'est un univers en fait un peu nouveau, moi personnellement, que j'ai pu découvrir. Voilà.